dans Lecture du soir. 1975.
Éveillé par crème matinale, votre peau est prête pour une nouvelle journée.
Très bien. J'aime bien danser avec une blonde. Une blonde comme toi. Blonde à croquer.
On essaye de nous faire ressembler à des bonnes femmes qui n'existent pas.
Le beau divorce. Une série en 5 épisodes de Victoria Cario.
Qu'est-ce qu'être femme ?
Qu'est-ce qu'être une femme ?
Très contente d'être une femme, surtout en 1975.
Pourquoi 1975 ?
Parce qu'il y a des tas de possibilités que je n'aurais pas eues il y a un siècle, par exemple, ou deux.
Molière était catégorique. Du côté de la barbe, elle a toute puissance.
Voltaire disait avoir vu des femmes guerrières, des femmes savantes, mais jamais d'inventrices.
La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants.
Mon œil.
C'est Napoléon qui l'a écrit.
Mais Madame de Staël a aussi écrit que Napoléon était un con.
Madame, est-ce que cette réforme du divorce vous apparaissait comme nécessaire ?
Indispensable, oui.
Tout le monde est absolument d'accord sur la réforme du divorce par consentement mutuel.
Non, la place de la femme n'est pas plus au foyer qu'ailleurs. Comme celle de l'homme, elle est partout. Partout où son activité peut et doit s'employer.
C'est dans l'action, je crois, que la condition féminine évolue. Et aujourd'hui, si on parle tant de tous ces problèmes, c'est justement parce que des millions de femmes s'affirment dans le travail, dans les luttes et dans tous les aspects de l'activité humaine et qu'elles participent au combat politique.
Musique originale, Julien Noël et Étienne Bonhomme. Réalisation, Louise Loubrieux. Épisode 5. Vous entendez, c'est pas pressé, mais non moins dynamique. Ce sont ceux de Mado, notre héroïne, et de Gilles. Nous sommes le 21 juin 1975. La fête de la musique n'existe pas encore, mais le solstice d'été, si. Malgré le grand soleil et la légère brise, Mado et Gilles sont inquiets. Une épreuve les attend. Ils ont rendez-vous avec la sévère Madame Meyassou, la maîtresse d'école de Thomas. Si pour certains parents la remise du bulletin scolaire est une partie de plaisir, pour Mado et Gilles, ça n'a jamais été le cas. Thomas n'a hérité ni de la belle écriture et de l'excellente orthographe de sa mère, ni de l'esprit scientifique de son père. Ses résultats étant homogènement très médiocres depuis la maternelle, cette année de séparation entre ses parents n'aura pu qu'empirer les choses.
Quoi qu'il arrive, on n'est pas colère.
Oui, je suis prêt.
Entrez.
Bonjour, Madame Meyassou.
Bonjour, Madame Meyassou.
Madame Soubry. Monsieur Soubry, permettez-moi de vous embrasser. Asseyez-vous.
Merci, Madame Meyassou.
Merci, Madame Meyassou.
Je vous préviens, je risque d'être un peu émue. Mais je vais essayer de me contenir. Le bulletin de notre petit Thomas.
Lecture 10, écriture 10, calcul mental 10, histoire 10, géographie 10. Ah, dessin 4.
Ce n'est pas un petit artiste que vous avez là.
Tant mieux, tant mieux.
Alors, heureux ?
Je suis sans voix.
Ça tient du miracle. Ses anciennes maîtresses m'avaient prévenu et elles avaient raison. Il était très, très mauvais en début d'année. Le dernier de la classe, pour dire les choses.
Vous avez fait du bon travail. Merci, Madame Meyassou.
Ah non, pardonnez-moi, mais je connais mes limites. C'est à vous que revient tout le mérite. Mais je suis curieuse. Que s'est-il passé pour que le petit s'améliore à ce point? Vous avez engagé un professeur particulier? Je ne le prendrai pas mal, vous savez.
Non, non, non. Je lui ai fait travailler le calcul mental le week-end. Et toi, Mado?
Et moi, un peu plus d'orthographe et d'histoire la semaine, voilà tout.
Mais modeste, par-dessus le marché. Un vrai travail d'équipe, oui. Ah, si tous les couples étaient aussi soudés et s'occupaient de leurs enfants comme vous le faites, la société ne serait pas ce qu'elle est. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'enfants divorcés, même au sein de notre école.
Vraiment ?
Et je peux vous dire que chaque fois, ce sont les enfants qui trinquent. La dégringolade au niveau des notes, mais je m'égare. Bon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon été. Où partez-vous cette année, tous les trois ?
En juillet, dans le sud, avec ma mère.
Et en août, en Bretagne, dans la maison d'une amie.
Quelle chance a le petit Thomas, que ses deux parents puissent prendre 2 mois. Vous savez que la plupart de nos petits passent au moins 1 mois au centre de loisirs. Ah ! Les petits pigeons sortent du cours de musique. Je vous raccompagne.
Ça ira, merci, on connaît le chemin.
Merci encore, Madame Meyassou.
Merci, Madame Meyassou. Et bonnes vacances.
Et encore bravo.
On n'allait pas lui dire, hein ?
Oh non, ça lui aurait gâché le plaisir.
Et mon patron m'a dit, pas question en juillet. C'est pas possible. Tu sais ce que je lui ai répondu? Je démissionne. Voilà ce que je lui ai répondu. Je passe juillet en famille et puis c'est tout.
Alors Jérôme n'ira pas au centre alors?
Pas cette année, non?
Mince. C'est Joël qui va être déçu.
Tiens, les parents du petit Thomas.
Papa et maman ensemble. Alors ça, c'est pas commun?
On avait rendez-vous avec Madame Meyassou.
Aïe, pauvre petit, il repique alors.
Au contraire, il passe haut la main. Elle nous a convoqués pour nous féliciter.
Ça alors ?
Mais comment tu as fait ? Tu dois avoir moins le temps pour t'occuper des devoirs. Ah oui, monsieur doit être fier scénariste. Ça n'est pas le métier de madame tout le monde.
Je suis très fier de Mado, qui en effet travaille tout en reprenant brillamment ses études.
Tu nous enverras des invitations pour l'avant-première ?
Mado ne vous a pas dit ? Le tournage est annulé.
Comment ça se fait ?
Dépression. Le réalisateur à Sainte-Anne. Les artistes sont fragiles, vous savez.
C'est dommage.
Pas tant que ça. Le projet n'était pas vraiment solide.
Comme son réalisateur. Bon, mesdames, on vous laisse.
On a des choses à préparer.
Mais oui, c'est le grand jour. Vous faites l'anniversaire au parc cette année alors?
Oui, avec le déménagement, les cartons, ça sera plus simple.
Le déménagement?
Vous déménagez? Où?
Allez, au revoir mesdames.
À tout à l'heure pour le goûter d'anniversaire.
On apporte quelque chose?
Non, non, rien, on s'occupe de tout.
Je ne comprends rien. Je croyais qu'ils étaient séparés.
Ils se sont remis ensemble, ça ne fait pas de doute.
C'est mieux pour le petit.
Oh oui.
De commère. Je ne suis pas mécontent que Thomas passe en sixième. Je t'offre un verre?
J'aurais adoré, mais j'ai rendez-vous avec Annette au Select.
Ah.
Mais je suis en avance, tu veux m'accompagner?
Bon, mais je partirai dès qu'elle arrive alors.
Oh, arrête d'avoir peur d'elle, elle ne mord pas.
Je n'ai pas du tout peur d'elle.
Tu sais que c'est aujourd'hui que je le passe.
Quoi?
Bah mon permis, juste avant le palais de justice. Quelle journée. Le jour le plus long.
Justement, à propos du rendez-vous au palais de justice, je voulais te parler. J'ai bien compris que tu voulais vivre seule, et je suis très content qu'on ait trouvé ces deux appartements tout près. Mmh. Mais le divorce, Mado, on est vraiment obligés?
Comment ça?
Eh bien, maintenant que...
Que quoi?
Qu'on s'est remis ensemble, au fond.
Gilles...
Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?
Gilles, on ne s'est pas remis ensemble. On recouche ensemble, c'est autre chose.
On peut dire qu'on se fréquente un peu quand même, non?
Si tu veux, on se fréquente, mais on n'est plus ensemble. Enfin, pas comme avant. Mais si c'est difficile pour toi, on peut arrêter...
Non, 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 non. C'est très bien comme ça, ne changeons rien. Et puis Maître Joux et Maître Bloch s'entendent comme larrons en foire. Ce serait dommage de les décevoir à deux pas du but. Comment tu vas t'habiller, toi? Je devrais mettre un costume, peut-être.
Tu es très bien comme tu es.
C'est vrai.
Sérieux et décontracté, tout toi.
Madame Grossman, Monsieur Soubry, alors, c'est le grand jour?
Tu l'as dit.
Rétro-contact ceinture?
Ceinture rétro-contact.
Serge doit être dans ses petits souliers.
Serge?
Mon instructeur. Ils ont sympathisé avec Annette.
Bon, eh bien... Je vais faire les courses pour l'anniversaire. Un gâteau, 10 bougies, des gobelets, des serviettes, autre chose?
Des bons becs. un gros paquet de bonbec.
Oui, oui, bien sûr, les bonbec, évidemment. Au revoir, Annette.
Salut, salut.
Mado, à tout à l'heure devant le palais, hein. Et merde pour ton permis.
Vous allez voir, ça va aller tout seul, comme dans du beurre.
Ah, oh, vous et vos conseils à la noix de coco, franchement. Bonjour, madame.
Bonjour, madame. Je suis votre inspectrice pour le permis de conduire. Pouvez-vous me présenter vos papiers d'identité, s'il vous plaît?
Tenez.
Merci. Madeleine Grossman, épouse Soubry. Vous êtes prête?
Oui.
Eh bien, allons-y.
Je peux vous dire qu'elle est prête, hein, je m'y connais.
Laissez-moi juger par moi-même. Je vous remercie.
Rétroviseur et ceinture.
Bien. Allez, démarrez. Tournez à gauche.
Mais je n'ai pas le droit.
Bien. Alors la prochaine à droite.
Ah, passage clouté, je m'arrête.
Bon.
Et je ne cale pas.
Je vous l'avais dit.
Silence à l'arrière. Roulez encore un peu. Voilà. Maintenant, garez-vous ici.
Bah, joli créneau, hein.
Chut. Bon, vous pouvez éteindre le contact.
Alors ?
Madame est une excellente conductrice. C'est étonnant, vu son piètre instructeur. Oh, taisez-vous. Votre réputation vous précède.
Alors ? Je l'ai ?
Vous l'avez, oui.
Merci, merci.
Mais qu'est-ce qu'elle fait? On va être en retard.
Elle n'aurait pas changé d'avis.
Oh, ça m'étonnerait.
Ça m'étonnerait aussi. Elle est décidée. Enfin, on est décidé.
C'est pas vrai. Bravo. Alors ça, j'en étais sûr. Bravo. Elle l'a eu. Elle l'a eu.
Trop d'ambiance pour un divorce.
Oui, bon, allons-y. Le juge nous attend.
Gilles Soubry et Madeleine Grossman sont les parents de Thomas Gaston Soubry, né le 5 septembre 1966 à Paris 14e. Autorité parentale, Monsieur Soubry et Madame Grossman continueront d'exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard de Thomas. Organisation de la vie de l'enfant, la résidence habituelle de Thomas est fixée chez sa mère, Madeleine Grossman, aux 4 villas d'Alésia à Paris 14e. Droit de visite et d'hébergement du père, en période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école ou du collège jusqu'au dimanche 18h. À charge de M. Soubry de ramener l'enfant chez sa mère ou de l'y faire ramener par toute personne de confiance, n'est-ce pas?
Bien entendu.
M. Soubry s'oblige à verser à compter du 1er septembre 1975 à Mme Grossman la somme de 1800 francs par mois d'avance. Bon. Maître, nous avons fait le tour.
Oui, monsieur le juge.
Tout à fait, monsieur le juge.
Madame Grossman, monsieur Soubry, veuillez signer la convention.
Je n'arrive pas à croire que c'est pour de vrai.
Voilà, monsieur le juge.
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 12 avril 1975 par M. Gilles Archibald Soubry et Mme Madeleine Fanny Grossman, épouse Soubry, je prononce le divorce par consentement mutuel. Gilles Archibald Soubry et Madeleine Fanny Grossman, je vous déclare divorcés.
Si tous les divorces se passaient comme celui-là...
On n'aurait plus beaucoup de travail.
Ça, c'est sûr.
Madame Soubry, ne pleurez pas.
Grossman, maintenant, c'est Grossman.
Vous l'avez eu, votre beau divorce.
Merci, maître Jousse. pour tout.
Non, mais c'était un plaisir, un vrai plaisir. Vous savez que je suis bientôt à la retraite.
Maître Jousse va prendre sa retraite ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Henri ?
Évidemment, mais évidemment. Allons, allons, allons boire un verre. Je vais te raconter.
Allez, au revoir.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
T'as un mouchoir.
Tiens.
Merci. Ça m'a fait tout drôle quand le juge a dit je vous déclare divorcée. C'était comme le jour de notre mariage, tu sais, devant le maire. Et puis je t'ai regardé et j'ai eu de la peine. Ça ne t'a pas fait quelque chose, toi ?
Si, bien sûr. J'avais les larmes aux yeux, tu n'as pas vu ?
Oui. C'était un beau mariage.
Mais oui. Allez, ça va aller. Ne t'inquiète pas, hein ? Allez, viens. On va prendre l'air.
Plus que la fin, c'est le début d'autre chose. Tu as raison.
Je suis garé là. Je te dépose ? Mais non, je suis bête, enfin. C'est toi qui vas conduire.
Moi ? Mais je ne l'ai pas encore.
Pas le morceau de papier, mais le permis, tu l'as. Allez, montre-moi ce que tu sais faire.
Tu n'as pas peur ?
Attention au gros camion, là. Et au feu aussi.
Tu vois que tu as peur.
Je te fais entièrement confiance. Ce sont les autres qui me font peur. On est à Paris, pas à la campagne.
Relax. Bon, il va falloir qu'on se dépêche, dis donc. Il est bientôt 16h30. Les courses sont à la maison. Enfin, chez toi.
Ah, oh, j'ai laissé ma mère s'en occuper.
Gilles.
Elle a insisté, ça lui fait plaisir.
Fils à maman, tu ne changeras pas de ce côté-là. Bon, qui va chercher Thomas ? Toi ou moi ?
Et si on allait le chercher ensemble ? Toi au volant, ça lui fera une belle surprise.
Allons-y.
Molo, vas-y Molo, s'il te plaît.
Tu sais que j'aurais mieux fait de me taire. Maintenant qu'elle sait que je ne travaille plus, la directrice veut que je m'occupe de la tombola. Non mais tu te rends compte ? Déjà que je m'occupe du petit tout juillet, aucune compassion. Tiens, tiens, encore vous, on se quitte plus à ce que je vois.
Thomas ?
Ouh !
Thomas !
C'est pas vrai ! Maman, tu sais conduire alors ?
Joyeux anniversaire ! Salut, mon frère !
Et vous êtes divorcé alors, ça y est ?
Ça y est !
Il vous a disputé ?
Bah qui, mon chéri ?
Bah le juge.
Pourquoi il nous aurait disputé ? On n'a rien fait de mal.
C'est vrai. Et il a dit à partir de quand j'aurai mes 30 francs ?
Tes 30 francs ?
Bah oui. Vous avez dit qu'à partir de maintenant, vous me donneriez 15 chacun. Faut que j'organise ma trésorerie, moi. On met de la musique ?
Ça ne va pas te déconcentrer, Mado ?
Ah, ça va.
D'abord, personnellement, les caprices de Marianne me paraissent une pièce. Alors, personnellement, assez médiocre.
Mais tu n'aimes pas Musset non plus.
Non, mais je suis d'avis.
Ni Musset, ni Giraudoux, ni Claudel.
Mais figure-toi.
Ah non, pas celle-là. Oh, j'adore.
Oh, my dreams. You're my sun. My moon. My kind of wonderful. That's what you are.
Faudrait l'envoyer en Angleterre, celui-là.
One like you. There's no way they could have met you.
Donner rendez-vous aux parents à côté de la statue.
Ah, j'aperçois.
Mamie !
Elle a vu vu les choses en grand, dis donc.
Il y a même une banderole.
Et les commères et leurs petits sont déjà là. Elles sont pas possibles.
Mais chérie,
bonjour Denise.
Bonjour maman. Tout se passe bien, on dirait.
Ah, je m'amuse comme une folle. Tiens, Mado, viens voir. Alors, c'est bon. Tu sais, Mado, vous avez bien fait tous les deux. Je suis contente pour vous.
Je vois ça, oui.
Et si tu as besoin que je garde le petit, maintenant que tu travailles et que tu reprends tes études...
Vous êtes là, je sais. Ah, tiens, voilà Annette.
Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Elle est où, ma petite tomate farcie?
Là-bas, avec ses camarades de classe.
Thomas, regarde qui est là!
On s'occupe des bougies?
Tu sais, pour les vacances, je ne sais pas ce que tu as prévu en juillet, mais si le sud te tente...
C'est gentil, mais il faut que je m'occupe de mon appartement et...
Si tu as besoin d'aide, ma mère serait ravie.
Je n'ai plus ma mère, mais je me débrouille très bien.
Allez les enfants, venez! On va faire les bougies!
Ouais. Attention, ne te brûle pas les doigts.
Et voilà, 10.
C'est bon? Je peux ouvrir les yeux?
Vas-y.
Waouh!
Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Thomas!
Petit. Et maintenant, tu marches sur tes deux jambes.
Joyeux anniversaire!
Une petite photo souvenir d'abord? Allez. Plus près que ça, plus près que ça. Voilà, tous autour du gâteau, parfait.
Cheers!
Et maintenant, Thomas et ses parents. Voilà, tous les trois ensemble, une belle photo de famille. Pas besoin de leur demander de sourire à ces trois-là.
On n'est pas si mal, non?
Raison tout le temps, parce que pour avoir la paix, je préfère. En plus, j'essaie de faire un petit peu de charme quand ça me plaît pas, mais enfin, il est charmant et tout se passe toujours bien. J'ai beaucoup de chance, mais je suis pas mariée depuis longtemps, c'est peut-être pour ça aussi.
Je parle, j'explique, n'est-ce pas, je montre ce qui serait bien, et dans... quelquefois, je suis obligée d'abandonner. J'abandonne, et j'abandonne facilement.
Ça dépend des moments, des fois, je le prends par la douceur, et d'autres fois, à l'usure, à force d'insister.
Bien, mon Dieu! J'ai peut-être l'air d'un sac, là, mais dans ces cas-là, j'utilise les moyens de toutes les femmes, quoi. Je vous ferai pas de petit dessin.
Tu trouves ça normal que ce soit la femme qui commande dans un ménage ou le mari?
Oh, ben, je trouve ça dépend, quoi. Je trouve que ça devrait être les deux, quoi. Parce qu'il n'y a aucune raison que la femme soit inférieure à l'homme et l'homme inférieur à la femme.
Quand tu seras grand, qu'est-ce qui commandera chez toi?
Ça dépend quelle femme j'aurai, hein.
Il faut lier la vie des hommes et des femmes par le mot qui nous unit, camarades.
C'est vrai qu'il y a des luttes actuelles qui permettront certainement d'arracher certaines choses, mais la condition féminine, elle ne peut pas se modifier avec, dans le système actuel, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, surtout pour voir plus loin.
Chaque fois qu'on fait avancer nos idées, je crois que chaque fois on avance d'un pas vers le bonheur.
Le beau divorce, une série en 5 épisodes de Victoria Cario. 5e et dernier épisode. avec Louise-Aurie Di Quéro, Brice Hilleret, Clara Breteau, Quentin Bayot, Caroline Piette, Johanna Nizard, Elsa Gage, Fanny Blondeau-Taous, Lynn Thibault, François Château, Marie-Christine Horry, Jean-Charles Dizazzo, Manon Leroy et Émilie Incerti-Formantini. Et les voix de Juliette Clément, Armel Dumoulin, Catel Donis, Mirabelle Calfon, Bénédicte Bosque, Valérie Vinci, Céline Pierroux, Johan Milin et Roméo Mariani. Musique originale, Julien Noël et Étienne Bonhomme. Consultant scénario, Thibaut Martin. Bruitage, Éléonore Malot. Prise de son, montage, mixage, Antoine Viossa, Maxime de Peretti de la Roca. Assistante à la réalisation, Céline Schaeffer. Réalisation, Louise Loubrieux. Victoria Cario a été lauréate de l'appel à projet Fonds Podcast Originaux France Culture SACD.
Vous êtes bien sur France Culture.
Beaucoup de prises de parole d'André Malraux sont restées célèbres, comme le discours pour Jean Moulin le jour de son entrée au Panthéon.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais cette série de salles des archives vous propose d'aller plus loin en réécoutant Malraux à toutes les grandes étapes de sa vie.
L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant.
Avec à chaque fois une question principale, que signifiait pour lui de s'engager ?
Salles des archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture propose une nouvelle collection de podcasts, Les Aventuriers de l'archéologie. Des découvertes racontées sous forme d'enquêtes par les archéologues qui les ont faites. Un paléopolar.
La première découverte de restes humains vraiment significatifs, elle a lieu en 2007.
Les Aventuriers de l'archéologie, l'énigme d'Ilroud, un si vieux sapiens, par Jean-Jacques Hublin, réalisation Assia Weber, une nouvelle collection de 4 épisodes à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Dans cette nouvelle saison de Mécanique du journalisme, Élise Carlin retrace le travail mené par la journaliste Lorraine de Fouché, prix Albert Londres 2024, récompensée pour plusieurs de ses enquêtes sur des affaires de violences faites aux femmes.
En France, aujourd'hui, ça coûte plus cher de dire qu'on est victime de violences que de commettre des violences.
Mécanique du journalisme, saison 15, enquêter et écrire sur les violences sexuelles d'Élise Carlin, réalisation Assia Weber. À écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, place à l'instant poésie. Tous les soirs en semaine à 21h30, le chanteur et écrivain Gaël Faye partage avec vous son amour pour la poésie.
voudrais vous présenter La Ronde Infinie d'Evelyne Trouillot, qui est une poétesse haïtienne. C'est un extrait du recueil Il faut parfois chanter. Pourquoi j'ai choisi ce poème ? Parce que je n'arrive pas à écrire un poème pour mes filles et que je suis très jaloux de ce texte. Le poème est dit par Marie Sona Condé.
Ronde de nos bras autour du pays crève-cœur, beauté chancelante, lourde de rêves et d'émoi. Saison de soleil et d'orage, entre balbutiements et révolte, au fil des cheveux et des larmes qui, toujours, s'en mêlent. Au souffle des douleurs rouges vives et pleurs mauves de sang, j'ai appris à retenir mes griffes pour admirer vos envols de cerf-volant frondeur. Sourire des grands boulevards dans l'intimité de la terre battue et l'allégresse du sable. Mouvement généreux et infini où le don se multiplie. Mains levées qui se disent bonjour et adieu, au revoir et merci, toujours et sans rancune. À demain. Pour la vie.
Evelyne Trouillot est une poète haïtienne qui vit à Port-au-Prince, qui s'investit beaucoup dans la vie locale. J'ai eu la chance de la croiser avec Lionel Trouillot et aussi Georges Castera lors d'ateliers d'écriture auxquels j'ai participé à Port-au-Prince en 2013, quelque chose comme ça. Alors ce poème, je le trouve très beau. Il me touche parce qu'il est adressé à ses filles, et que j'ai deux filles, et que je trouve toujours délicat d'écrire à ses enfants. Sans être niais, sans utiliser des images éculées, en disant l'essentiel avec une économie de mots. Et aussi, ce que je ressens, que j'apprécie beaucoup dans ce poème, c'est la pudeur. Il y a beaucoup de pudeur. Et souvent, la pudeur, c'est ce qui m'émeut. Voilà, je trouve que cette fin, bonjour et adieu, au revoir et merci, toujours et sans rancune, à demain pour la vie.
Au revoir et merci, toujours et sans rancune, à demain pour la vie.
Bon, entre autres, hein, parce que tout est beau, hein. J'ai appris à retenir mes griffes pour admirer vos envols de cerf-volant frondeur. Ça dit quelque chose de tellement profond sur la parentalité, sur ce que c'est que vouloir protéger et ses enfants et en même temps avoir conscience qu'il faut leur laisser un espace d'être eux-mêmes. Voilà. Tout ça pour dire que la poésie haïtienne me touche profondément et je sais pas ce qui s'est passé en Haïti pour que qui est cette sensibilité-là partagée. Et puis là on parle pas d'exil, on parle pas d'identité, on parle pas du réalisme merveilleux, parce qu'on pourrait se dire voilà, comme c'est les Caraïbes, ils parlent de ce qu'ils connaissent. Non, c'est Haïti n'est pas une île, Haïti est un continent infini. Ouais, grâce à sa littérature, grâce à sa poésie, Haïti déborde ses frontières. Et donc merci à tous les poètes et toutes les poétesses de ce pays. J'ai une pensée très forte pour Haïti aussi aujourd'hui, parce que c'est un rêve. Haïti, c'est un rêve qui ne s'est pas encore accompli, malheureusement. Mais c'est la première république d'esclaves. C'est, c'est, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la situation haïtienne, c'est tout simplement décourageant, cruel, triste. Et heureusement que ce pays se bat avec les mots. Quand on connaît la poésie et la littérature haïtienne, on ne peut pas désespérer du présent. C'est ce qui est fabuleux avec ce pays. C'est qu'il y a toutes les raisons de désespérer quand on voit le réel. Et puis on ouvre un recueil de poésie et à nouveau on y croit.
Ronde de nos bras autour du pays crève-cœur. Beauté chancelante, lourde de rêves et d'émoi. Saison de soleil et d'orage, entre balbutiements et révolte, au fil des cheveux et des larmes qui, toujours, s'en mêlent. Au souffle des douleurs rouges vives et pleurs mauves de sang, j'ai appris à retenir mes griffes. Pour admirer vos envols de cerf-volant frondeur. Sourire des grands boulevards dans l'intimité de la terre battue et l'allégresse du sable. Mouvement généreux et infini où le don se multiplie. Mains levées qui se disent bonjour et adieu, au revoir et merci. Toujours et sans rancune. À demain, pour la vie.
C'était l'instant poésie de Gaël Faye, à retrouver sur franceculture.fr, l'application Radio France et sur l'Instagram de France Culture avec chaque soir une illustration originale.
Écoutez France Culture, dernière partie de votre rendez-vous avec la fiction. Du lundi au vendredi, 20 minutes dédiées à la lecture sous toutes ses formes. Pages arrachées, lecture simple ou musicale. Vous y entendrez des textes variés, portés par des grandes voix de comédiens et d'écrivains. Les lectures du soir alterneront entre archives et création de nouvelles formes. Tout de suite, lecture du soir.
Page d'arraché à David Goudis par Patrice Gauthier. Livre choisi, Obsession. Invité, Noël Simsolo. Noël Simsolo, j'ai vu votre film Cauchemar. J'ai lu vos romans, Nuit Nord, Ciel Noir. Je trouve que il y a un peu de Goudis là-dedans.
Il y a un peu de Goudis pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un écrivain que j'aime énormément. Et puis peut-être parce que, bon, Ciel Noir, Nuit Nord se passe dans le nord de la France, à Lille, et Cauchemar est un film qui aurait dû être tourné là-bas. Et c'est vrai que Goudis et le nord, il y a quelque chose de proximité comme ça. On peut pas dire proche, des proximités. D'abord, il faut savoir que quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai lu pour la première fois Goudis, parce que ça paraissait en série blême, et ma mère m'autorisait à lire les séries blêmes, pas les séries noires. Et j'ai donc découvert Goudis très très jeune, deux livres, La nuit tombe et Cauchemar. Et j'ai trouvé dans mon enfance, mais ça s'est confirmé par la suite, des choses vraiment de proximité, parce que le quartier d'Oisem, par exemple, avec les épaves qu'il y avait à l'époque, le froid, les pavés, ça va à côté Skid Row, comme ça, avec des trognes pareilles et tout, l'alcoolisme et tout. Et en fait, c'est vrai que, sans dire que je me suis senti un personnage de Goudis, c'est pas du tout ça. J'ai vu des personnages comme les personnages de paumé de Goudis. Et Philadelphie est une ville qui n'est pas sans rapport avec Lille, avec des musées, une ville haute, une ville basse, une ville où il y a le tertiaire maintenant, mais avant, une ville avec des ouvriers, des pauvres d'un côté, et au contraire les bourgeois de l'autre. Et puis une ville clôturée, comme ça, très fermée sur elle-même. Alors déjà, c'était quelque chose. L'autre élément chez Goudis qui m'a toujours passionné, cette espèce de faux masochisme. C'est-à-dire que les personnages sont très masochistes. Dans Obsession, par exemple, le type, à la fin, veut vraiment accepter la drogue, mais que ça fasse mal, comme il dit. Et en même temps, masochisme qui est dû à un passé, quelque part. Soit de la richesse, et soit, généralement, de la musique ou de la réussite. C'est-à-dire que tout ce qu'on a trouvé dans un cinéma que nous avons aimé, je pense à un film qui n'a rien à voir avec Goudis, c'est pas tiré de Goudis, mais je pense à ce film de Nicolas Ray qui s'appelle La Maison dans l'ombre en français, cette espèce d'univers où le nocturne, la neige, la peur, le désespoir, la violence sont mêlés dans une espèce de flux inéluctable. Goudis sait montrer ça.
La tête rentrée dans les épaules, il avançait lentement, bravant la tempête de neige. Il regarda avec un petit sourire ses pieds chaussés de mocassins norvégiens à semelle épaisse, garantie imperméable, puis il resserra son écharpe autour de sa gorge et boutonna ses gants. Il se dit qu'il était parfaitement équipé pour cette agréable balade dans la neige. Il allait juste faire un petit tour, jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Puis il rentrerait se coucher. Il leva la tête pour s'orienter dans le tourbillon de flocons, essayant de calculer depuis combien de minutes il était parti. Mais cette rue ne lui était pas familière et il n'arrivait pas à évaluer le temps. En outre, le cadran de sa montre était couvert de givre et il ne pouvait lire les chiffres. Il approcha son doigt du cadran pour l'essuyer, mais à cet instant, quelque chose de plus important attira son attention, une vive lumière au bout de la rue. Il se dirigea vers la vitrine éclairée. Ce n'était qu'une confiserie. Pourquoi était-il important pour lui d'aller dans une confiserie? Il ne se sentait certes pas d'humeur à manger des bonbons et il avait des cigarettes dans sa poche. Peut-être avait-il simplement envie de se réchauffer. Pourtant non, il était loin de grelotter, on était vraiment très bien là dans le blizzard. Il entra dans la boutique, elle était toute petite et elle était vide. Debout devant le comptoir, il examina l'assortiment de caramel et de sucre d'orge. Puis un minuscule vieillard apparut et lui demanda ce qu'il désirait. « Je ne sais pas, » dit-il. Et il eut un sourire un peu triste parce que ce n'était que trop vrai. Le vieil homme haussa les épaules et d'un petit geste d'excuse indiqua la variété limitée de sa marchandise. « Jetez un coup d'œil, » murmura-t-il. « Rien ne presse ?» Le visage de Darby se durcit. « Ne soyez pas ironique. »«
Moi ?»
Le vieillard parut se ratatiner encore.
« Je ne suis pas ironique, monsieur. J'ai simplement dit... »«
J'ai entendu ce que vous avez dit. » Le vieillard le jaugea du regard. Ses yeux-là virent un homme plus jeune, vêtu d'un raglan et d'allure parfaitement respectable. Mais il était difficile de se faire une opinion. En plus, l'heure était tardive et il voyait cette personne pour la première fois.
« Qu'est-ce que vous regardez ?» dit Darby d'une voix sourde, métallique.
Le vieil homme recula apeuré.
« Non !» dit Darby. « Arrêtez !»«
Monsieur, je vous en prie. »«
Quoi, je vous en prie ?»
Il fronça les sourcils perplexes.
« De quoi avez-vous peur ?»
Le vieil homme déglutit avec peine.
« Monsieur, ce n'est qu'une petite boutique. Je ne fais pas beaucoup d'argent, juste de quoi vivre. Ma femme et moi... »«
Votre femme ?» interrompit Darby. Vous êtes marié ?
Naturellement.
Et le vieillard se dit avec une inquiétude renouvelée que le monde d'aujourd'hui était décidément un monde désaxé où tout pouvait arriver. Darby s'entendit demander d'une voix lente, circonspecte :
Est-ce que votre femme vous trompe ?
Le vieil homme inspira profondément.
Monsieur, je vous en prie, ma femme a 68 ans.
D'accord, dit Darby. Mais elle n'en demeure pas moins une femme. Elles sont rusées, les femmes, croyez-moi, elles sont rusées comme des serpents. Elles connaissent tous les trucs. Il leva les yeux et jeta un rire au plafond, un rire âpre et amer.
Elle vous arrache le cœur comme ça. Et quand vient le moment de s'expliquer, qu'arrive-t-il? Croyez-vous qu'elle reconnaît la vérité?
Monsieur...
Ne m'interrompez pas, c'est important. Écoutez attentivement, je sais de quoi je parle. Je vous dis qu'on ne peut pas y arriver. On ne peut pas lui faire admettre la vérité. Elle tient tête comme Jeanne d'Arc. Elle me dit que j'ai la conscience coupable et que je cherche à rejeter la faute sur elle.
Le vieil homme fit un timide pas en avant
Écoutez, monsieur, si vous avez besoin d'un autre verre, il y a un estaminet. Qui a parlé d'estaminet? D'ailleurs, je ne bois pas et je ne m'adonne pas au jeu. Je ne cours pas les filles. Alors, où va-t-elle chercher cette histoire de culpabilité? De quoi devrais-je me sentir coupable?
Le vieil homme se sentait plus en sécurité et parla même plus hardi. Il fit un autre pas en avant et indiqua une horloge murale.
Il se fait tard. Il est l'heure de fermer.
Mais Darby ne l'entendit pas. Il avait les yeux clos et voyait de nouveau l'écran noir et le visage sur l'écran. La jeune fille, la blonde platinée. Il voulut ouvrir les yeux, mais apparemment ses paupières ne fonctionnaient pas. Il ne pouvait les soulever. Bon, dans ce cas, c'est autre chose. Arrête d'y penser, libère-toi de cette vision, libère-toi pour l'amour du ciel et reviens-en, problème de fond. Ne regarde rien d'autre que ce problème, froid et brûlant comme la glace. Tu es marié à une femme qui couche avec un autre homme. Le stratagème fonctionna. La blonde platinée disparut. Il parvint à ouvrir les yeux et au même instant, il décida de régler le problème une fois pour toutes. Il se dit qu'il n'y avait qu'une seule façon de le régler. Il aurait bien voulu en trouver une autre, mais il n'y en avait pas. Rien que cette méthode. Une simple et rapide transaction qui mettrait un terme aux coucheries.
Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais fermer.
N'entendit pas. Son regard se posa sur deux gros annuaires, un gris et un jaune, posés sur une étagère près du téléphone. Il prit le volume gris, le feuilleta, l'ouvrit à la page qui l'intéressait, puis il parcourut du doigt la liste de noms et finit par trouver celui qu'il cherchait. Lanson Peter, pharmacien. L'adresse lui apprit que l'homme tenait une boutique dans le centre-ville, au cœur des bas-quartiers, du côté des sinistres immeubles de Hyde et de Rest Street. Il se dirigea vers la porte que le vieillard lui ouvrit avec empressement. Une fois dehors, il s'aperçut que la neige avait cessé, que le vent était tombé. Il marcha sans relâche jusqu'au moment où il rencontra un taxi. Il le héla, grimpa dedans. « Ramenez-moi à la maison, » dit-il. « Facile, » dit le chauffeur. « Dites-moi simplement où vous habitez. » Darby se pencha en avant, glissa de la banquette et tomba sur les genoux. Il poussa un juron et se remit en position assise. « Où diable sommes-nous » grommela-t-il. « À Philadelphie. Ne faites pas le malin. Au port une nuit pareille, il faut que je ramasse un poivreau. » se lamenta le chauffeur. « Je ne suis pas ivre. Dans quelle rue sommes-nous ? » ?»« Second Street, numéro 2600. »« Vous êtes fou. » »« D'accord, » dit le chauffeur. « Je suis fou. » Mais Darby, en regardant de plus près la rue et les immeubles, comprit qu'il se trouvait bien à l'extrémité de Second Street, près du grand carrefour de Front et de Light Street. Il avait parcouru une douzaine de kilomètres à pied. « Déposez-moi à l'angle de Light et de Rest Street, » dit-il. Le chauffeur fronça les sourcils. « C'est là que vous habitez ?» Un long moment, il regarda le chauffeur d'un air déconcerté, puis il grimaça un sourire. « Oui, » dit-il, « c'est exactement là que j'habite. » Un haussement d'épaule, le chauffeur se retourna vers le volant et démarra. Le taxi tourna dans Front Street, descendit la rue, s'engagea dans Sixth Street, qu'il suivit jusqu'à Vine Street, puis traversa Vine pour atteindre Eighth Street et de la Rest Street. Tout en réglant la course, Darby jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 3 heures passées. Il se trouvait là au cœur même des bas quartiers. Sur le moment, il ne put les voir. La rue paraissait vide, et puis il distingua les silhouettes. Les vagues silhouettes blotties contre les murs sombres. Il vit les épaules tombantes, les têtes baissées, certains d'entre eux assis sous des portes cochères, les coudes sur les genoux, comme des morts curieusement capables de respirer et de bouger alors qu'ils étaient morts depuis longtemps. Il les regarda, se demandant vaguement ce qu'ils faisaient là, dehors, par ce temps glacial. Il ne se rendait pas compte que son pardessus était ouvert et qu'il n'avait plus ses gants, les gants qu'il avait ôtés dans le taxi et oubliés sur la banquette. Il remonta High Street vers le nord, inconscient du froid, uniquement conscient de la proximité des murs qui bordaient Skid Row. La proximité de ces murs avait quelque chose de réconfortant. C'étaient des façades de restaurants dont les devantures mettaient le passant au défi d'entrer manger un morceau s'il se sentait le courage d'avaler la nourriture.
et des murs d'asile de nuit, un quarter le lit, sans supplément pour les punaises, des façades de mission qui procuraient un bol de soupe et le salut éternel, et des murs couverts d'affiches bariolées invitant à entrer voir pour seulement 20 cents un film tourné 12 ans auparavant. Il y avait toutes ces façades, d'autres immeubles non signés, dont les briques cassées laissaient apparaître deux étages de pièces où il n'existait pas de frontières, pas de loi.
Psieu !
Il se retourna et vit la gorge ridée, le visage violacé, la crinière de cheveux gris, et les yeux, sans couleur particulière, qui semblaient avoir du mal à fixer.
Monsieur, je ne veux pas de café.
Tout près, sous une porte cochère, un rire éclata. L'homme au visage violacé n'y prêta qu'une attention.
Je ne veux pas de café, je ne veux pas de repas, je ne veux même pas de ticket de métro.
Le rire reprit, semblable à une quinte de toux.
Je vais vous le dire ce que je veux. Je veux un verre de vin.
Il regardait les mocassins norvégiens qui valaient pas moins de $19.75 et puis le beau costume de tweed tissé en Écosse et coupé par Dominique pour $115. Il regardait l'homme qui portait un beau raglan et qui appartenait à Chestnut Street. Darby lui donna 50 cents, il le regarda s'éloigner, puis il entendit l'autre se dresser sous la porte cochère et dire d'une voix sérieuse, d'une voix qui ne riait plus.
Pourrais-je en profiter, moi aussi ?
C'était un jeune homme décharné, à la figure louche avec un œil de verre mal ajusté, l'autre œil était étroit et méfiant comme l'œil d'un renard.
Allez, je vous ai vu lui donner $0.50, vous avez plus que ça.
Il se rapprocha. Son œil valide bougeait à peine, mais surveillait les deux côtés de la chaussée, les deux extrémités de la rue. N'approchez pas, dit Darby, en se préparant à l'attaque. Le jeune homme hésitait. Il avait la main près de la poche où se trouvait le couteau, mais son autre poche contenait ses papiers de mise en liberté surveillée, et il se demandait si ça valait la peine de courir le risque.
« Je voulais pas vous froisser, monsieur. »«
C'est bon, » dit Darby, en lui tendant une pièce. « Voilà 25 cents. »«
Merci. »
Darby se remit en marche, revint sur ses pas. Où se trouve la pharmacie de Lanson ? Et il se demanda ce qui lui avait fait oublier l'adresse inscrite dans l'annuaire.
Lanson ?
L'œil valide le fixa.
Ah oui, Pete !
Le bras décharné indiqua le nord.
À 500 mètres, prenez à droite, c'est juste à l'angle.
Un chat sorti d'une ruelle observa l'épaisse couche de neige puis regagna sa cachette. Plus loin, un gros homme haletant, portant un tablier, surgit d'un restaurant et exhala de l'air froid en contemplant le ciel avec langueur. Comme si les rêves eux-mêmes étaient là-haut, beaucoup trop loin. Darby dépassa le gros homme, traversa Vine Street, et vit trois hommes de couleur, en képi, les mains dans les poches de leur tunique. Ils étaient en rang, appuyés contre le mur, et il crut qu'ils dormaient debout, jusqu'au moment où il vit leurs yeux ouverts et leurs lèvres en mouvement. Il n'entendit qu'une partie de la conversation.
Faut pas croire que cette poulette était bourrée. Pas à moi.
Je le sais, j'y étais. Tu étais bourré, alors comment tu pourrais le savoir ?
Derrière une fenêtre éventrée, une radio diffusait de la musique. Puis un jukebox prit le relais dans un café où il n'y avait qu'un seul client. Il vit le client mettre une autre pièce dans l'appareil et il sentit que le jukebox allait jouer le même air. Peut-être qu'il le jouait depuis des heures, parce que c'était cet air-là, et pas un autre. Une chanson sur les fleurs qui ne renaîtront jamais, parce que le printemps jamais ne reviendra, car tu es parti, et moi je suis seul. Il s'éloigna de la chanson triste, tourna au coin de la rue et vit l'enseigne au-dessus de la devanture, l'enseigne qui proclamait « Droguerie de Pitt, prix réduit ». La vitrine était obscure, mais sur le pourtour, la diffuse lueur verte d'un néon révélait des pyramides de médicaments et des pancartes annonçant que les prix étaient écrasés. Regardez ça. 69 cents seulement. Deux boîtes pour le prix d'une. La devanture semblait beaucoup trop petite pour toutes les marchandises exposées. Et pourtant, l'assortiment complet était là. Et toutes représentaient des occasions à saisir.
Il regarda à travers la porte en verre et il vit que la boutique était spacieuse, les produits bien empilés, le plancher balayé. Tout était parfaitement en ordre, prêt pour les clients du lendemain. La boutique semblait se vanter tranquillement de faire d'excellentes affaires. Darby pensa à l'argent qui rentrait dans la caisse, à l'homme avisé qui se tenait derrière le comptoir, avec un sourire naturel, et qui suggérait, d'une voix satinée, de prendre un flacon supplémentaire de ceci, d'essayer cette nouvelle marque de lame de rasoir, d'acheter le tube géant qui, à long terme, revient moins cher. Il aurait bien voulu qu'il ne soit pas 3h30 du matin, il aurait bien voulu qu'il soit 9 ou 10h du soir, l'heure de fermeture, afin d'être seul avec l'homme dans la boutique. Il savait que ce serait rapide, que l'homme n'aurait pas le temps de se rendre compte de ce qui lui arrivait. Ce serait rapide et sans bavure, une simple transaction de plus dans la boutique propre, où tout était net et bien agencé. Le plancher récuré à fond, tout bien en ordre. Comme ce soir, quoi. Et comme demain. Mais en pensant au lendemain, à ce qu'il projetait de faire, Darby éprouva une certaine tension, car il en était arrivé au stade où il n'avait plus le choix. Il devait aller jusqu'au bout. La tête lourde d'anxiété, il se demanda comment s'y prendre. S'il se débrouillait bien, il n'aurait pas à affronter un jury. Le crime ne serait jamais élucidé et on l'attribuerait à l'un des pauvres airs du quartier. Il se demanda s'il possédait ce talent particulier, s'il saurait procéder avec suffisamment de finesse et de précision, au quart de seconde près. Désormais, aussi sûrement qu'il avait les pieds dans de la neige réelle, la conclusion s'imposait. Il irait jusqu'au bout.
Page arrachée à David Goudis, par Patrice Gauthier. Aujourd'hui, Obsession. Invité, Noël Simsolo. Mixage, Jean-Frédérix. Assistante, Hélène Morel. Réalisation, Jacques Taroni.
Vous êtes bien sur France Culture.
Le Moyen-Orient s'embrase à nouveau avec l'ouverture d'un nouveau front entre Israël et l'Iran.
Nicolas Herbeau.
Alors que l'État hébreu a frappé les installations nucléaires iraniennes et que Téhéran riposte à coups de drones, essayons de comprendre comment on en est arrivé là, où en est le programme nucléaire iranien et quel rôle joue le président américain. On ouvre cette discussion ce samedi matin avec nos invités.
Les matins du samedi, ce samedi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'est la première cause de mortalité en France. C'est aussi une maladie dont la fréquence augmente, mais l'espoir est là.
Marina Carrère-Dancos.
Le ou plutôt les cancers sont de mieux en mieux soignés et ce n'est que le début d'une vraie révolution thérapeutique qui, à terme, transformera la prise en charge de nombreux patients. Mais déjà aujourd'hui, on peut agir par la prévention et le dépistage et éviter 40% des cancers. Comment et quelles sont ces innovations ? Réponse dans Carnet de Santé.
Carnet de Santé. Chaque samedi à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le langage est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux Votre cerveau. Faites vos propres expériences sonores en jouant avec lui.
Madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît ?
La main ? Qu'est-ce que c'est ?
Votre cerveau, saison 5, Le langage, réalisé par Louise André sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture vous propose de redécouvrir cette émission.
Bonjour le Book Club.
L'investiture de Barack Obama.
Anne James Chaton, j'ai lu Fab il y a quelques semaines et j'ai été sincèrement amusée, séduite par votre inventivité. J'avais déjà beaucoup aimé l'affaire La Pérouse. Vous avez eu cette idée étonnante, curieuse et ambitieuse d'offrir au ticket de caisse un prolongement littéraire, des historiettes de quelques lignes.
Jean-Marc B dit, il faudrait que les sensibilités se fédèrent. Jean-Marie B dit, on se voit et on se parle. Larry B dit, nous espérons aussi faire une bonne affaire au passage.